Les enjeux internationaux.
Avec vous Thierry Garcin, bonjour.
Bonjour Guillaume Erner et évidemment la Libye comme prévu, donc avec notre invité Monsef Djaziri, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes professeur émérite à l'université de Lausanne. Alors c'est une situation très compliquée, l'équation est complexe. Alors il y a un gouvernement et un parlement reconnus par la communauté internationale, mais qui se réunissent à Tobrouk, à l'extrême est du pays. Il y a un gouvernement et un parlement s'appuyant sur des milices, mais qui siègent dans la capitale. Il y a un gouvernement promu par les Occidentaux, officiellement aidé par l'Union européenne et soutenu par l'ONU, qui semble profiter de l'appui de la Banque centrale, de l'institution qui gère le fonds souverain, et de la compagnie pétrolière nationale, mais qui lui réside dans une base navale près de Tripoli. Il y a un mouvement armé qui se réclame de l'État islamique qui occupe au milieu du pays Sirte et ses environs. Il y a un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU qui séjourne à Tunis, mais qui effectue des navettes avec la Libye. C'est pas facile de comprendre toutes les logiques à l'œuvre, Monsef Djaziri.
Oui, en effet, c'est pas simple. Il y a en effet trois gouvernements en quelque sorte, à l'ouest, à l'est et à Tripoli, il y a deux gouvernements. C'est une situation qui n'est pas simple du tout et à laquelle les Nations Unies et la communauté internationale essayent de mettre apporter une solution et dans laquelle essayent de mettre de l'ordre, si vous voulez. Sauf que les choses ne se passent pas aussi aisément, si vous voulez. Et en particulier, le transfert du pouvoir de la part du gouvernement du Salut National à Tripoli ou bien du gouvernement à Tobrouk, ce transfert du pouvoir n'est pas aussi pacifique que le voudrait l'ONU. Et également, les moyens mis en œuvre par l'ONU sont des moyens problématiques, en particulier l'accord politique qui a été élaboré par l'ONU, plus ou moins avec beaucoup de Libyens qui ont pris part. Cet accord ne permet pas véritablement de résoudre le problème et donc d'avancer.
Alors cet accord est ancien, il se fonde surtout sur une ou des réunions au Maroc, si mes souvenirs sont bons, c'est 2015.
Alors cet accord, si vous voulez, il y a un long processus en fait qui a duré trois ans à peu près, trois ans pendant lesquels on a essayé d'élaborer un accord. Alors, il y a deux caractéristiques. La première, c'est que la part que les Libyens y ont pris, elle est très réduite, si vous voulez. Et que donc, il y a un problème de légitimité, si vous voulez. L'ONU parle beaucoup de société civile qui a contribué à l'écriture de cet accord, mais en réalité, ce sont des individus qui ne représentent à peu près qu'eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet accord est trop complexe, si vous voulez, d'une part, et contient toute une série de contradictions en lui-même. Et cette complexité, ces contradictions rendent son application extrêmement difficile. On a déjà un exemple actuellement, c'est-à-dire que le Parlement à Tripoli, qui a été élu en 2012 et qui n'a pas voulu céder le pouvoir au nouveau parlement à Tobrouk qui a été élu en 2014. Ce parlement a été remplacé en fait par le Conseil d'État qui est une institution prévue par l'accord, mais les conditions dans lesquelles d'abord ce Conseil d'État a été installé sont problématiques et les compétences que s'attribue actuellement le Conseil d'État vont au-delà de l'accord et en tout cas reposent sur une interprétation très très ambiguë et révèle précisément les contradictions au sein de cet accord.
Alors d'ailleurs ce Conseil d'État, j'ai vu, a tenu sa première réunion à Tripoli vendredi dernier dans l'ancien Parlement. C'est une sorte de nouvel acteur finalement.
Alors, en principe, c'est voulu comme étant une deuxième chambre, en quelque sorte. Il y a le gouvernement d'abord, deuxièmement le Parlement, c'est-à-dire le pouvoir législatif à Tobrouk, et une deuxième chambre qui est le Conseil d'État, qui est une chambre consultative. En tout cas, c'est conçu comme tel dans l'accord. Or, tout se passe comme si cette deuxième chambre, qui aurait dû être une chambre consultative, devient une chambre presque consultative,
délibérative
en quelque sorte.
Délibérative, c'est ça ?
Délibérative et en même temps, oui, délibérative et en même temps que consultative, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent au terme de l'accord qui sont contradictoires par certains aspects.
Alors, il y a la question des milices, et là aussi, les dépêches disent qu'il y a eu samedi une attaque près d'une installation pétrolière, mais là, de la part d'ailleurs de l'État islamique, le groupe qui se revendique de l'État islamique, il y a eu l'explosion, accidentelle ou non, d'un hélicoptère de décollage, il y a eu une voiture piégée à Benghazi, tout ça dans les derniers jours. Et ces milices, quels pouvoirs ont-elles ?
Alors, les milices, elles ont un pouvoir très important, si vous voulez, surtout la partie ouest. La partie est, l'armée, ou ce qu'il en reste, l'armée libyenne, c'est elle qui tient le terrain, même si, en effet, il y a aussi quelques milices. Mais ce sont les milices à l'ouest, donc dans la région de Tripolitaine, et en Tripoli en particulier. C'est là où les milices ont un poids important parce que ce sont elles qui ont défendu les différents gouvernements qui se sont succédés en Libye. D'ailleurs, c'est elles aussi qui ont joué un rôle dans l'échec de plusieurs gouvernements parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédés. Et donc, la situation actuelle, c'est que le gouvernement Sarraj, c'est-à-dire ce gouvernement que la communauté internationale a voulu imposé aux Libyens, parce que je crois que c'est dans ces termes-là qu'il faut le présenter les choses, ces milices apportent un soutien actuellement, en tout cas beaucoup d'entre elles, si vous voulez, soutien problématique par ailleurs, parce que à tout moment, ces milices peuvent se retourner contre le gouvernement Sarraj lui-même. C'est d'ailleurs un des problèmes, et c'est une des objections que font les gens de l'Est à l'égard de ce gouvernement.
Alors, à vous entendre, d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a quand même des ferments, plus que des ferments, d'une situation à la libanaise durant la guerre civile du Liban. Enfin, c'est un parallèle que peut-être vous refuserez, mais c'est assez étonnant ce que vous dites. Et alors, il y a aussi la question de l'État islamique. Alors, quid de l'État islamique et quid aussi des Occidentaux ?
Alors, concernant l'État islamique, comme vous le savez, hein, l'État islamique est très présent, l'État Daesh, donc, dans la région de Sirte. Elle l'était également à Derna, donc à l'extrême est, mais il semble qu'il y ait eu une défaite que certains considèrent comme plutôt un retrait stratégique. Donc ça, c'est un point qui a son importance. Donc l'État Daesh semble reculer à l'est pour se repositionner à Sirte et également pour investir le triangle du pétrole, si vous voulez, qu'on appelle le triangle pétrolier, si vous voulez. Donc ça, c'est concernant Daesh.
D'un mot, parce qu'on arrive au terme de l'émission, non, malheureusement. Oui, donc on va revenir de toute façon sur cette question des Occidentaux, de l'ONU, etc., prochainement, parce qu'on voit que c'est une situation assez complexe. Je vous remercie, sans conclusion, malheureusement, Monsef Jaziri. Je vous remercie, donc, professeur émérite à l'Université de Lausanne, franceculture.fr, pour écouter l'émission, la télécharger. Et puis demain, nous parlerons de l'Érythrée.